עמוד 219, מבוא לספר.
Introduction livre du Zohar. אוקיי. Commençons, il y aura des questions, des réponses, des gens nouveaux. On va faire mesure. Le livre du Zohar a 4 introductions. Sans le connaître, on ne peut pas comprendre comment lire le livre du Zohar. Donc on va étudier une partie de ces introductions. Et au fur et à mesure, on étudiera d'autres introductions. Quoi qu'il en soit, le livre du Zohar n'est pas un livre qu'on peut étudier immédiatement, mais pour les gens qui sont des kabbalistes, après plusieurs années d'études, et tout doucement se rapproche à ouvrir les yeux, à son ouverture de ses yeux, où il commence à voir les forces qui sont derrière la matière, et alors il commence à ressentir un peu ce qui est écrit dans le livre du Zohar et comment le livre du Zohar parle. C'est pas du tout pour les débutants. Mais depuis ces introductions, on peut apprendre beaucoup et s'y rapprocher. Donc le Baal HaSulam nous dit la chose suivante. Bien que la profondeur du livre du Zohar soit fermée dans 1000 portes, que nous ne sommes pas capables des mots habituels que nous dans lesquels nous étudions d'arriver à comprendre ce qui se passe ici dans le livre, et sa profondeur et le plus et notre langage humain est trop limité pour nous donner les moyens afin d'expliquer une seule chose qui se trouve dans ce livre du début à sa fin. Et la clarification que j'ai faite ici n'est rien d'autre qu'une échelle. On parle ici du Pérou Chassolam, le livre du Zohar. Comment s'élever pour comprendre ce qui est écrit, pour aider ceux qui sont intéressés à la hauteur de ce livre et ainsi pouvoir s'intéresser au contenu du livre du Zohar. Par conséquent, j'ai trouvé comme étant une bonne chose de préparer le lecteur, lui donner les définitions pour commencer à étudier ce livre. C'est somme toute le livre, le but de tout le livre du Zohar, de toute cette introduction. Nous amener à la possibilité de nous rapprocher du livre. Tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui est lu, tout ce qui est parlé dans le livre du Zohar, et même dans les légendes qui y sont parlées, le livre du Zohar est divisé en différents styles, dans différentes langues. Il y a la langue de la Kabbale, qui est l'Hidra Rabba, Hidra Zuta, et ça fera des Tzinyuta, trois parties, qui sont écrites, comme le Talmud Seres Sfirot, comme Etzraim, dans la langue de la Kabbale, par Soufim, Sfirot, Rishimot, des massachim, etc. Ces parties-là, il y a des parties qui sont écrites comme une légende, comme des histoires. Il y a des parties qui sont écrites dans la langue de la halakha, la langue des lois. Et donc il dit, même dans le langage de légende dont il est du Zohar, ou la valeur des 10 sphirot. Autrement dit, il est question uniquement des 10 sphirot, de la spiritualité uniquement, appelée Chabat Ragat Nehi, Keter Chochma Bina Tiferet Nezachadis Malchut, qui sont les 10 parties qui construisent l'âme. L'âme, toute âme, est somme toute un kli, qui se trouve, il y a ça ici, qui se trouve dans la lumière de l'infini, Orin Sof, et dans cet Orin Sof, il y a ce clic qui s'appelle créature, et la lumière de Orin Sof est appelée créateur. Et alors, le clic qui se trouve dans cette mer de lumière Orin Sof, dans cette infinité de lumière, dévoile le créateur en fonction de la loi qui s'appelle équivalence de forme. Dans la mesure où l'attribut du cli de la créature, de celui qui reçoit, est équivalent à l'attribut de la lumière qui donne, dans la mesure où il y a entre eux une équivalence de forme, alors la lumière remplit le clé, autrement dit, la lumière est ressentie dans le clé. Et tout le travail de la créature est de s'amener dans les 10 sphirot, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Nesachot, Yesod, Malchot, nous amener à l'équivalence, l'adéquation à la lumière, donner à tous ces attributs, ces 9 premières, ces Tetrishonot et Malchut. Somme toute, ce même attribut qui donne comme la lumière, dans la mesure où l'attribut du Créateur, la lumière, et l'attribut de la créature, le kli, ou l'intention, seront équivalents en fonction de ces attributs, alors la créature ressentira que la lumière l'a remplie. Donc, il dit au début, il faut savoir que tout ce qui est lié, tout ce dont il est parlé dans le livre du Zohar, même les légendes qui sont inférées, sont les 10 sphirot, Keter, Chochma, Bina, Chagat, Nehim. Et l'ensemble de toutes les valeurs et de tous les tséophimes qui se trouvent, tout ce dont il est question et de ce qui se passe dans la créature, ressemblant aux 22 lettres qui sont dans la langue écrite, dont leur combinaison sont suffisante pour dévoiler tout objet et toute sagesse. Et toutes les valeurs et les combinaisons des valeurs des 10 sphirot sont suffisantes pour dévoiler toute la sagesse du livre des cieux, autrement dit, dans toute la réalité. Bien que il y a des mondes, des partsoufim, des sphirot, et minéral, végétal, animal, dans l'ensemble du monde, des anges, des vents, peu importe qu'est-ce qu'on peut imaginer, tout ce dont il est question est uniquement ce qui a lieu dans ce kli, la création, la créature qui reçoit le kli en elle. C'est ce qu'on étudie. On ne peut pas ressentir ce qui est la lumière en dehors de la créature, mais uniquement dans la création. De là, il découle que, somme toute, les 10 et 10 sphirot nous sont suffisantes pour parler de le sentiment de la créature, tout ce qui est en elle, sont l'ensemble des mondes, 10 sphirot. Par conséquent, il y en a 3 limitations qu'il faut y faire attention, ne pas en sortir lorsqu'on étudie le livre du Zohar. Autrement dit, si on ne fait pas attention, qu'on n'est pas concentré notre approche du livre dans le livre de façon correcte, que nous voyons véritablement de quoi le livre parle. Donc, premièrement, la première barrière qu'il faut nous restreindre sans se disperser, il faut savoir qu'il y a 4 façons de l'apprentissage qui sont matière, la forme dans la matière, la forme abstraite et l'essence. Autrement dit, si nous parlons de la façon dont de ce que nous connaissons, d'une façon générale, il y a face à nous la matière, disons, peu importe, du plastique, sa forme du plastique. Donc la forme et la matière, je peux parler de la matière elle-même, qu'est-ce qu'elle est, et de sa forme, à quoi elle ressemble. Et qu'est-ce qu'elle est ? Maintenant, la forme abstraite, qui est une forme elle-même sans matière, je peux parler d'un cigare, d'un bâton, et son essence, où là, je ne peux rien dire à ce propos, je ne sais pas de quoi il est question. Et il y a dans les 10 sphirot de la même chose. Et sache que dans l'essence et dans la forme abstraite des 10 sphirot, le Zohar ne s'en occupe absolument pas, mais uniquement la matière de celle-ci ou leur forme, dans la forme revertie de la matière. Autrement dit, le Zohar est l'ensemble de la sagesse de la Kabbale, car le Zohar sont les fondements de la Kabbale, sont des choses qui sont très concrètes, ni la philosophie abstraite, mais atteindre une science, et par conséquent, on parle que des choses que l'on peut comprendre, atteindre, ressentir et les maintenir, et non pas des choses qui sortent de la limite de notre perception. On perçoit la matière, autrement dit, je peux analyser la matière elle-même d'une chose, et sa forme. Et en cela, je me trouve en permanence. Donc, ce que je ne regarde pas dans le Zohar, je regarde en permanence le kli, la créature, la matière de la créature, le désir de recevoir, et quelle forme le désir de recevoir reçoit. Et pas plus que cela. Et c'est suffisant. Nous avons le désir de recevoir, somme toute. Et quelle forme, autrement dit, quelle équivalence il y a entre la lumière, ce désir reçoit. Comme nous parlons par exemple d'un homme, nous avons l'homme qui est clair et sa forme. Autrement dit, quelles conditions, quel discernement cet homme traverse. Alors que dans la forme abstraite, de ça on n'en parle pas. La forme abstraite, quand je regarde la forme, disons la table. Il y a le bois, et ce bois a une forme qui est la forme d'une table. Et maintenant, si je parle d'une table simplement, non pas du bois, mais la forme de la table, quelle forme il peut y avoir à une table? Donc ces choses, bien qu'apparemment elles sont inconnues et réalistes, mais de l'instant que je sors de quelque chose de concret qui existe dans la réalité, alors je me donne une liberté totale, totalement détachée de la réalité. Et à ce propos, les kabbalistes nous mettent en garde, car nous devons dévoiler la créature et le créateur dans les degrés spirituels. Et par conséquent, il nous est interdit de fuir dans tout un tas de choses imaginaires. Et paragraphe 4, il faut faire attention que le livre du Zohar ne parle pas comme on a vu. Il parle d'abord que la forme de la matière et de la forme d'une manière, et ensuite il y a également l'ensemble de la réalité de la divine dans son lien avec la création des âmes et la façon d'exister est conçu de trois façons. Le Ein Sof Baruch Hu, le monde de Hatzilut, et trois mondes après, appelés Bria Yetzira Asiya. Que veut-il nous dire? Que toute la créature, toute la création est, tout d'abord, une condition, on l'a déjà vu, on parle du Kli, on étudie le Kli, le récipient, qui est appelé matière, le désir de recevoir et la forme du kli qui est l'intention ou le don, son influence sur le kli, le don du kli. Sur ces deux, dans ces deux limites, on peut s'occuper. Le Zohar parle de cela. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, il est question de toute la structure de la réalité. Nous étudions le fait que la lumière a créé le kli, et ce kli est appelé Ein Sof, qui est le kli, la créature, le kli, et la lumière le remplit. Le remplit sans limite. Et cette situation est donc appelée Ein Sof. Sans limite. Sans limite à la satisfaction. En dehors de cela, en dehors de cette situation appelée Ein Sof, infini, il y a en dessous de l'infini des situations qui sont appelées Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et en dessous ce monde-ci, dans lequel nous nous trouvons. Et de là, il découle que Zohar parle de quoi ? De l'infini, du monde de l'Atzilut, du monde d'Adam Kadmon est, entre guillemets, lié au monde de l'infini. J'ai écrit ici en particulier, de façon spéciale, afin que vous puissiez voir ce nom, qu'il y ait ici la place. Donc le monde de l'Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, sont appelés tout ensemble les mondes de Bia. Bria, Yetzira, Asiya, c'est le monde de Bia. Trois mondes appelés Bria, Yetzira, Asiya. Sache que le Zohar ne s'occupe que des trois mondes de Bia. Bria et Tirasia, ici, le Zohar s'occupe de cela. Autrement dit, on étudie les mondes de Bia, uniquement. Et dans l'infini, également l'infini. Et dans le. On n'étudie pas. Dans celle-ci, ce qui se passe dans le monde de Bria et Tzira, au-dessus du monde de, des mondes de Bia, mais comment elles influencent le monde de Ensof et de l'infini sur, le, sur ces mondes-ci. Alors on parle d'eux uniquement dans ces conditions. Mais de Ensof et le monde de Atzilut tels qu'ils sont, en elles-mêmes, le Zohar ne s'en occupe pas. Autrement dit, on étudie dans la Kabbalah uniquement ce qui a lieu dans les mondes de Bia. Ne pensez pas que c'est quelque chose de limité, la Kabbalah. On n'étudie pas la forme abstraite et les sens, on n'étudie pas au-dessus du monde de Bia, dans Atzilut et dans Ein Sof. Non. Mais il veut nous dire là où se trouvent les âmes. C'est là où on est certain d'étudier de façon claire. Et au-dessus de cela, il n'y a pas besoin. On ne peut pas l'atteindre. On ne peut atteindre qu'à la condition que les mondes de Bria et Tirasia s'élèvent. Il y a une autre limitation. Paragraphe 5, troisième limitation. Bien que dans chaque monde il y a de Bia, il y a trois aspects qui sont Esser Sfirot, les 10 Sfirot, qui sont la divinité du même monde, qui brille, qui sont. Il y aura un problème de lunettes. Donc, dans chaque monde, nous avons 10 Sfirot qui brillent, qui sont la spiritualité qui brille dans ce monde-ci, les âmes, ou avec les âmes et les Ochri Nefashot Bnei Adam, et le reste de la réalité appelé des anges, des vêtements, des palais. Malachim, Levushim, Echalot. Le reste, il y a beaucoup d'autres choses. Ce que vous voyez, vous avez entendu parler, des vents, des formes, des anges, tant de choses, des esprits, des animaux, etc. Toutes ces choses-là ont plusieurs noms. Donc il dit ainsi, sache que bien que le Zohar analyse les détails de chaque monde, quoi qu'il en soit, tu dois savoir que l'essentiel des mots du Zohar sont concentrés que dans l'aspect des âmes de l'homme dans chaque monde. Autrement dit, on étudie les âmes, Neshamot. On étudie les âmes, et tout le reste ici, les esprits, les anges, et tout cela, ou la lumière ici, et cela on ne l'étudie pas en tant que tel. Tout est étudié du fait que les âmes reçoivent, ressentent. Donc, ce qu'on étudie sur les âmes, du fait qu'on étudie sur les âmes, on étudie le reste des mondes également. Et ce qu'il dit et clarifie ici l'ensemble des aspects n'est que pour connaître la mesure dans laquelle les âmes reçoivent d'elles. Comme dans notre monde, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Je sais comment je perçois les choses dans mes sens, dans mon désir par rapport à moi, comment les choses ont lieu à moi, quelqu'un d'autre verra ça différemment, etc. Et ce qui n'est pas lié à l'expérience des âmes, le Zohar n'en parle pas, même pas seulement. Ainsi, il a été écrit. Et donc, il faut apprendre toutes les choses qui sont dans les voies du Zohar uniquement dans ce qui est lieu de la réception des âmes, de la réception dans les âmes. Autrement dit, la troisième limite est que, condition d'étude, c'est que le Zohar n'étudie que les âmes et uniquement les âmes par rapport aux autres formes. Donc nous avons trois limitations que l'on étudie la matière et la forme de la matière. On étudie comment il nous dit la chose, les mondes de Bria et Tsirasia et les âmes qui s'y trouvent dans Bria et Tsirasia, et uniquement ce qui a lieu par rapport aux âmes. Ce sont les limites. Autrement dit, on étudie ce qui rentre dans notre kli qui s'appelle l'âme. Là où se trouve ce kli, combien ce kli perçoit à l'intérieur. En fonction de cela, on étudie. Et dans ces trois limitations, ces trois barrières, du fait que ces trois définitions sont définies et que le lecteur, si le lecteur ne sait pas y faire attention et sort son étude en dehors de ses limites, alors le sujet sera pour lui confus, et par conséquent j'ai trouvé ça extrêmement important de les expliquer quelles sont ces trois limitations, à quel point, jusqu'au point qu'elles sont compréhensibles par toute âme. Autrement dit, il nous met en garde de ne pas oublier le fait que nous parlons uniquement des âmes et uniquement par rapport aux âmes. Pourquoi c'est tellement problématique? Car les kabbalistes, tel que Baal HaSulam écrit ici, ils veulent que l'on se concentre sur notre correction, que uniquement dans la correction des âmes, où j'ai lève en permanence mon âme, en fonction de cela, je peux ressentir davantage le Créateur, les mondes, les différents partoufim, les sphirot, tout ce qui a lieu et tout ce qui se trouve, mais en moi. Je veux savoir quelque chose, donc je dois me prendre et m'amener à l'autre bout du monde, ici et là. Et je dois dévoiler, ressentir et me lier à tout cela comme dans notre monde. On ne parle pas de... Si on veut poser une question particulière, par exemple, s'il y a un jugement, c'est celui qui a vu. Un témoignage, c'est celui qui a vu. Si quelqu'un a vu telle ou telle chose, ainsi nous sommes construits. Autrement dit, voir, c'est ce qui s'appelle la perception la plus claire qui soit. Ainsi, dans la réalité spirituelle, par conséquent, le Baal HaSulam ne veut pas que l'on rentre dans tout un tas d'imaginations et nous met en garde. Si tu as vu, si tu t'es élevé à un degré particulier, si tu as ressenti tel que cela serait vrai en toi, si cela t'est clair, d'où cela provient, comment tu le ressens, est-ce que tu peux l'analyser, le vérifier? Alors, c'est une véritable atteinte spirituelle. Et par conséquent, toutes ces limitations sont pour nous amener à des conditions qui sont claires, que nous trouvons cela, nous ressentons cela, etc. Sans aucune imagination. Par conséquent, avant que l'on ouvre le livre, il faut savoir comment comprendre ce qui est écrit. Et ainsi les kabbalistes Ainsi, les kabbalistes de là ont écrit le livre uniquement de leur degré qu'ils ont, du degré qu'ils ont atteint. C'est clair ou non? Vous êtes assis comme ça, je ne sais pas si je suis ennuyeux. On est arrivé, que faire? À part partir? Bon. Ce sont des choses très importantes. Pour l'instant, on ne sait pas compris quoi faire avec ça, mais ça concentre l'attention de l'homme de façon correcte, son approche de ce monde-ci, du monde de spirituel, et ça l'aide pour sa correction. Comment je corrige mon cli de perception, et ce que je perçois, c'est précisément ce que j'ai. Tout le reste n'est qu'une imagination qui n'a aucun fondement ni réalité. Ainsi, c'est expliqué dans la Kabbale, nous approchons à une envers les choses. Quoi? Dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il des mots comme des anges, comme des esprits dans notre monde matériel? D'où cela vient dans notre monde? D'où viennent ces mots? Non, tu vois de telles choses? Non, c'est pour ça que je vous demande si d'où viennent ces noms. Ah. Nous nous trouvons dans le monde matériel. Et dans notre monde, on a également la matière et la forme que reçoit cette matière. Dans le minéral, le végétal, l'animal parlant, il y a matière et la forme sur la matière. On peut parler de l'homme, de l'humanité de façon abstraite. Ça ne dit rien. C'est de la philosophie tout simplement vide et on peut juste se confondre en cela. On parle que de ces deux formes et ce que nous avons, les mots que nous avons viennent de ce monde-ci. Dans la spiritualité, on n'a pas d'autres mots ni de noms. Et que je ressens et que je dévoile quelque chose de spirituel, je le ressens. Je n'ai pas de nom pour cela. Ce qu'il ressent. Dans notre monde, d'ailleurs, même chose. Il y a un certain ressenti. Maintenant, je dois trouver pour ce ressenti un nom particulier. À quoi cela ressemble? Comment l'appeler? Par rapport à quoi? Donc, dans notre monde, on trouve des noms. Dans la spiritualité, on n'a pas de nom. Mais du fait que le monde spirituel et le monde matériel se trouvent en parallèle les uns aux autres, et ce qui descend dans le monde spirituel, donc nous prenons dans notre monde des mots et nous les attachons au monde spirituel. Si je prends par exemple la Bible ou tout autre livre, des livres de Kabbale, on ne parle rien d'autre qu'en dehors de la spiritualité, car il n'y a pas besoin de parler de notre monde. Ici, tout le monde agit sans aucune liberté, sans aucune chose que l'on puisse diriger ici. Les gens, comme dit la phrase, tous comme des animaux, et par conséquent, on agit selon notre nature. Dans ce cas-là, de là, du fait que dans ce monde-ci, il y a des noms, je peux prendre des mots pour la spiritualité. Par exemple, si on lit la Bible, la Gemara, le Talmud, peu importe, on parle entre guillemets de ce monde-ci, mais on ne voit pas qu'à travers ce monde-ci, en fait, il nous parle des forces, des actions qui ont lieu dans les mondes spirituels. Par exemple, il donne l'exemple avec d'un côté il y a une image, d'un côté les formes, ces formes cordes qui attachent la lumière. Donc il y a la matière, une force qui met en action la matière. La sagesse de la Kabbale parle des formes qui sont derrière la matière, des forces qui sont derrière la matière. Donc les kabbalistes prennent cette forme qu'il y a sur l'image, et ce qu'il y a ici de façon extérieure, ce que nous avons, ils voient les liens qui agissent derrière cette image et les appellent par les mêmes noms que les noms que l'on donne à l'image. Autrement dit, s'il parle d'un homme, alors il parle de la force qui met l'homme en action. Un cheval, une table, l'air, peu importe. Il parle des forces qui se trouvent derrière cela, qui mettent en action la réalité. C'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. Et donc nous commençons de là à compléter la réalité. Là nous trouvons, on pénètre dans la matière, l'image de la réalité devient plus transparente et nous nous lions aux forces qui se trouvent derrière cela. Et grâce à cela, nous commençons à diriger notre vie, notre destin et nous amener à une force plus élevée, spirituelle, éternelle. Ce n'est pas clair? Donc c'est là vient l'ensemble de la langue des branches. Maintenant, vous demandez d'où vient dans notre monde des noms qui ne se trouvent pas dans notre monde, comme par exemple les anges, les esprits, de, par manque de choix, les kabbalistes ont donné de tels noms dans notre monde, bien qu'il y a des forces qui ne se revêtent pas dans la matière, mais ils ont dû les appeler ces forces-là par de tels noms. Donc ils les ont appelés ainsi. En général, ils ont lié ces noms à, comment dire, à une forme d'analogie, une équivalence avec d'autres formes. Donc on a des forces qui viennent et mettent la forme et de ce monde de la matière et mettent en action cette matière. Du point de vue matériel, il y a des forces également qui n'arrivent pas à la matière. Mais nous devons néanmoins les étudier et voir comment elle nous dirige. D'autres questions? Oui. Et vous avez dit maintenant qu'il y a, vous avez dit à l'instant qu'il y a des forces qui n'arrivent pas dans la matière et qu'il faut étudier néanmoins. Donc, comment peut-on étudier ces forces-là? 2 secondes, on va l'étudier. Il y a, quand nous parlons des disphirotes, quand nous parlons des mondes, des parsophimes, tous ces mots, ils ne se trouvent pas dans notre monde. Comment étudie-t-on cela? Nous avons un point dans le cœur, le début de la matière spirituelle, que nous développons cette matière spirituelle. Alors nous arrivons au ressenti qui s'y trouve. Donc nous avons une matière neuve, d'un désir particulier, spirituel, et ses propres formes. Et là, nous commençons déjà à étudier ces mêmes forces spirituelles et qui n'arrivent pas à notre monde matériel. C'est tout, qui se trouve en parallèle à notre monde spirituel. Autrement dit, nous avons 2 domaines, matériel et spirituel. Nous nous trouvons dans la matérialité. Dans la matérialité, nous avons de façon certaine une matière minérale, végétale et l'homme. Et une forme revêtue dans la matière. Quelle forme reçoivent toutes un tas d'objets, de minéraux, végétaux, animaux, etc., leurs formes, leurs attributs, et même chose dans la spiritualité. Nous avons une matière dans la spiritualité qui est le désir spirituel, non pas matériel, mais spirituel, et ses formes. La matière spirituelle, somme toute, sont 10 sphirotes, car Khatramat Nege. Nehi, comme on vient de l'étudier, et ces formes différentes nous donnent tout un tas de noms qu'on utilise, les âmes ou les anges, les esprits, etc. Ce que l'on entend, mais on ne sait pas encore de quoi il est question. Ok? Tout doucement, on verra comment lier ces choses ensemble. Et paragraphe 6. Et tu savais déjà que les 10 sphirotes sont appelées Chochma Bina Tiferet Malchut, et leur racine est appelée Keter. Donc on a somme toute Keter, Chochma Bina, Tiferet et Malchut. Mais Tiferet est inclus de 6 parties, et donc somme toute cela nous fait 10. Et donc, la sphère Tiferet a en elle autre 6 sphérotes qui sont appelées Chesed Gvura Tiferet et Sahod Yesod. Et rappelle-toi de cela, dans tous les endroits, nous sommes habitués de dire sphérotes qui sont Chumptum, Chesed, Chokma Bina, Tiferet Malchut. Donc, ne pas être confondu, ça peut être Kachad. Tom, comme il dit, ça peut être à la place de cela, à la place de Tiferet. Parfois il dit Zeranpin, qui est un autre nom, peu importe. Ces noms-là, par la suite, nous allons nous y habituer, et cela ne sera pas pour nous un problème. Somme toute, ce sont que 10 noms. Et donc, au final, ces 10 Sphirot incluent les 4 mondes de Bia. Car le monde de Hatzilut est la sphère entre Roma et le monde de Bria et la sphère de Bina, et le monde de Yetzira est la sphère de Tiferet, et le monde de Asiya est la sphère de Malchut. On dit toute la réalité est inclue de 10 parties. Toute la réalité, qui était Chokma Bina, Chesed Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod et Malchut. Parfois, nous disons Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod, qui sont appelés Tiferet, qui sont appelés Zeranpin. Parfois, on dit Chum, Chorma et Bina, Tum et Tiferet et Malchut, pour dire en raccourci. Parfois, on dit Kachab et Tum, Keter Chorma Bina, Tiferet Malchut. Parfois, on dit Kachab, Chagat et Nehi. Tout un tas de raccourcis. En dehors de cela, il nous dit également que si on divise toute la réalité en 10 parties, donc le monde de Bin de Chorma, c'est le monde de Hatzilut, Bria, le monde de, c'est pour Bina, toute Tiferet est le monde de Yetzira, et Malchut est le monde d'Asiya. Donc, et là c'est la racine de tous, ou également appelé le monde d'Adam Kadmon, ou le monde d'Ein Sof. Donc, toute la réalité, somme toute, est construite de 10 parties. Et en détail, non seulement chaque monde a 10 sphirot, Chumptum, mais le plus petit détail de chaque monde a également 10 sphirot, Chumptum. Autrement dit, si on prend chaque partie dans tout endroit, disons par exemple, peu importe, la sphirat Hod, la sphirat de Hod, elle dispose de 10 sphirot, lesquelles sont également Kachab, Chagat Nehim. Et si on prend de là une autre sphira, on peut également la diviser en 10 sphirot. Autrement dit, le particulier et le général sont équivalents. C'est comme dans une image holographique. Si vous connaissez ces genres d'images, quand on regarde la réalité, chaque partie de cette réalité inclut l'ensemble de la, inclut son ensemble. Y a-t-il des questions? Apparemment, rien n'est compris si vous ne posez pas de questions. Oui? Donc, on reprend. Nous parlons d'une âme. L'âme, la façon dont elle perçoit la réalité. L'âme inclut 10 sphirotes. Tout ce qui a lieu dans l'âme. Autour de l'âme se trouve uniquement le monde de l'infini. La lumière de l'infini. En fonction des changements qu'il y a dans l'âme générale, dans la réalité générale, dans la créature générale, en fonction de ces changements, nous ressentons notre vie. Afin de commencer à savoir précisément où nous nous trouvons, nous devons vérifier nos kelim. 10 sphirot, et au final, là-dessus s'y trouve les. Et de cela parle la Kabbalah. Ainsi, le Bala Soulam, tout doucement, vous nous arrivez à la situation où nous commençons à connaître et à ressentir et à comprendre ce que ressentent. Ce qu'ils ressentent. Ainsi, nous fait pénétrer tout doucement dans la réalité spirituelle. Paragraphe 7. Et l'ensemble du Zohar, qui sont les 10 a donné comme exemple les 10 Sphirot, Chuptum, selon 4 couleurs qui sont. Donc il dit la chose suivante. Nous avons 4 couleurs qui sont blanc et rouge, le vert et le noir. 4 couleurs. Le blanc c'est Chochma, le rouge c'est Bina, le vert c'est Tiferet. Et le noir, c'est Malchut. 4 couleurs. Comme nous avons dit précédemment, Chochma est appelé le monde de Hatzilut, Bina est appelé le monde de Bria, Tiferet, le monde de Yitzira, et Malchut, le monde de Asiya. Ce sont les Sphirot. Oui, ce sont les différentes couleurs et mondes. Ainsi, le Zohar nous explique comment les choses fonctionnent. Autrement dit, qui est comme un prisme avec 4 couleurs, et bien que la lumière qui s'y trouve, qui rentre, autrement dit, la lumière qui rentre n'a pas de couleur, la lumière n'a pas de lumière, le monde de Ein Sof. Quoi qu'il en soit, quand il traverse le prisme, le vert, il prend des couleurs et alors arrivent 4 formes de lumière qui sont la lumière blanche, rouge, verte et noire. Car elles sont cette lumière qui sont Elokiut, divinité et unité. On ne dit pas que c'est une lumière qui a une couleur. La lumière n'a pas de couleur, mais de la tête de Hatzilut jusqu'à la fin de Hatzilut, cette même lumière traverse et est la lumière qui n'a pas de changement. Et la séparation dans 10 sphirot Chuptum est à cause des kelim qui sont appelés Chuptum, où chaque kli comme une petite barrière qui donne une couleur, chaque kli donne à la couleur une couleur différente. Ainsi, le kli du monde de Hatzilut donne à la lumière de Ein Sof une couleur blanche. Non pas que la lumière change, mais par rapport à celui qui la reçoit, qui se trouve dans le monde de Hatzilut, cette lumière semble blanche. Autrement dit que sans lumière, sans couleur, car le kli de Hatzilut est comme la lumière elle-même, et la lumière divine ne ressent donc aucun changement quel qu'il soit en le traversant. Et cela est ce qui a été expliqué dans le Zohar à propos du monde de Hatzilut, qu'il est comme lui et son nom sont, autrement dit, le cri de Hatzilut, et ne change absolument pas la lumière qu'il traverse, que l'âme qui se trouve dans le monde de Hatzilut est tellement pure qu'elle perçoit la lumière telle qu'elle est sans changement. Qu'il soit, elle se trouve dans l'équivalence de forme avec la lumière. Tout le monde dit, si je ressens quelque chose, alors si je ressens quelque chose, je ressens que ce quelque chose tel qu'il est, non pas à travers tout un tas d'autres sens et compréhensions qui sont les miennes, et mon caractère, je deviens tellement pur dans le monde de Hatzilut que je n'influence pas, je ne change pas les choses que je regarde, vois et ressens. En fonction de cela, la lumière de Hatzilut est appelée lumière blanche, alors que les kelim du monde de Bria Yetzira Asiya, la lumière reçoit à cause d'eux un changement et une forme de couleur, d'obscurité, en fonction de ceux qui la reçoivent. Autrement dit, la lumière rouge pour Bina. Autrement dit, si je me trouve dans le monde de Bria, qui est appelé le monde de l'attribut du Bina, alors mon attribut est Bina et non plus Chorma. Et c'est déjà, veut dire que je ne suis pas corrigé à 100%, et donc je perçois la lumière déjà, non pas comme elle est précisément blanche, mais d'une façon appelée rouge. Autrement dit, si le kli se trouve dans Bina, alors il perçoit la lumière comme rouge, du fait que l'attribut du kli est tel que ainsi la lumière ressent les choses. On dit dans la lumière, il y a déjà un changement par rapport à celui qui la reçoit. Je ne parle pas de la chose telle qu'elle est, mais en fonction de comment je la ressens, en fonction de ma corruption. Autrement dit, le changement, la différence avec la lumière blanche en lumière rouge indique la mesure de corruption qui est en moi, que je ne l'aperçois pas telle qu'elle est. Et la lumière verte, car il n'y a pas de lumière chorma dans Tiferet, car lumière qui est comme la lumière de du soleil par rapport à Tiferet, qui est le monde de Yetzira, et noir pour la Sirat Malchut, qui est le monde de Asiya. Autrement dit, si je regarde où je me trouve, ainsi je perçois la lumière. Évidemment que plus je suis plus corrompu dans le monde de Asiya, et par conséquent je vois la lumière, j'y vois la lumière noire, parce que je suis noir, car ainsi je la ressens, que je ressens la lumière qui est toujours perçu uniquement en fonction de mes propres récipients, ressentis en moi, dans mon propre kli. Donc, dans la mesure où je ressens mes 10 sphirot, mon âme, je la corrige, alors je la corrige du monde de Asiya, dans le ressenti de la lumière comme étant noir, le monde de Yetzira, je la ressens verte, le monde de Bria, rouge, jusqu'au monde de Hatzilut, blanc. Ce sont les degrés dans lesquels je me corrige, et alors je ressens la lumière de plus en plus telle qu'elle est, car les corrections que je fais sont telles qu'elles ne corrompent plus la lumière. On appelle dans la Kabbale le mot lumière, mais la lumière représente tout. On dit tous les discernements, les ressentis, la sagesse, la connaissance, l'humeur, l'impression, les satisfactions, leur propre manque, la plénitude qu'on ressent, les souffrances que l'on ressent, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on peut s'imaginer, sont appelés sous un seul nom, qui est appelé lumière. Donc si on parle du noir, rouge, vert, on parle du changement qu'il y a entre le kli, la différence entre le kli et cette essence qui vient et nous remplit. Autrement dit, quand je dis que je me trouve dans une situation du monde de Asiya, que l'on se trouve dans notre monde au dernier degré qui est le monde de Asiya, qui est appelé ce monde-ci, oui. Donc, ce que je perçois ici, Et après, je perçois la réalité la plus opposée de la lumière que je corromps, cette réalité, cette lumière qui est en moi. Et ainsi, je la ressens. En fonction de la généralité, tout ce qui est corrompu regarde autour de lui les choses corrompues. Tout ce qui est en moi corrompu est ce qui me donne une image du monde de façon corrompue. Dans la mesure où je peux me corriger, je peux voir le monde de façon plus réparée. Quelques questions. Est-ce que le premier homme, Adam Rishon, ne t'appelait Atzilut? Adam Kadmon, Adam et Ève, il était au degré de Atzilut? Non, ça c'est absolument pas sur le sujet. Tu reviens sur la première erreur. Ce que nous étudions, il faut poser la question non pas sur Adam et Ève ou sur quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de confondre les gens qui sont ici. On étudie l'introduction au livre du Zohar. Ce qui est écrit ici, c'est ce que l'on étudie. On vient de le dire à l'instant. Viens de parler. Bon, vas-y, continue. Est-ce que les prophètes qu'on découvre, est-ce que la Kabbale c'est la même chose ou ce sont deux choses différentes? Les prophètes sont les mêmes kabbalistes qui sont arrivés à un degré qui est appelé prophétie. Tu peux également y arriver. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien en dehors du cli qui se trouve dans la lumière. De cela, on parle de cela de façon universelle. Il n'y a rien de plus que ce qu'on étudie. Seulement, on peut en parler dans tout un tas de mots. On peut en parler des âmes et des esprits et des anges expliquer ça comme dans la Bible ou comme dans le Talmud ou de mille et une façons, peu importe. C'est comme parler dans notre vie. Tu peux écrire la musique, des chants, tu peux écrire des romans, des films et tout ce que tu veux. Et cependant, tu parles somme toute de ce monde-ci. Et comment l'homme ressent ce monde-ci et pas plus que cela. Même chose, ici on parle de l'âme et ce qu'elle ressent et il n'y a rien de plus que cela. La lumière est appelée créateur et l'âme en elle, ce qu'elle ressent. De cela est la question, de façon universelle. Tu peux diminuer cette chose et dire c'est pas un homme, c'est un homme. Et ce n'est pas la lumière, mais ce monde-ci uniquement. Donc tu diminues tout ce concept à un degré très très petit, restreint, qui est appelé ce monde-ci. C'est tout. Tu parles des prophètes. Ce même clé qui arrive à un degré de correction dans le monde de Bria est appelé prophète. Et ce qu'il ressent en lui est appelé prophétie. T'as plus que cela? D'autres questions? Peut-on diviser ça en double dissimulation et simple dissimulation? Et oui, évidemment, tous ces degrés sont... Sinon, ce n'est pas une question qui n'est pas liée au sujet. Non, pourquoi? Parce qu'on peut tout amener ici, dans ce cas-là. Il n'y a rien en dehors de clé de la lumière et de l'élévation dans les différents degrés. Nous parlons des choses qui sont dans ce monde-ci. Ici, nous nous trouvons dans ce monde-ci. Ici, nous trouvons. Et nous devons arriver dans notre correction au degré de Hatzilut. C'est la fin de la correction. Pas plus que cela. En chemin, nous connaissons davantage la lumière, la réalité qui nous remplit dans les mondes de Sia et Tzira, Bria et Hatzilut. Donc en chemin, nous traversons la dissimulation double. Dissimulation simple, récompense et punition, et amour. Quatre étapes de développement. On peut tout y mettre dans cette image. C'est une image universelle, et c'est l'approche du Zohar, et ainsi de cela par le Zohar. Et on peut ici amener et expliquer cela des lettres, les sons, tout ce que l'on veut, les réincarnations, tout se trouve ici. Oui. Nous avons dit que dans le monde de la Sia, par exemple, et la couleur noire, dans le monde de la Sia, il y a des sphirotes. Alors, il y a Malchot de la Sia, et Bina de la Sia, et tant de choses comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire de la couleur de Keter de la Sia, ou de... Pour toute chose, il y a 10 sphirotes de Keter jusqu'à Malchut, dans les différents mondes et dans les détails de chaque degré. Quelqu'un a des oreilles qui font du bruit, des oreillettes qui font du bruit. Peut-être que vous pouvez diminuer un peu le son et vous entendrez également un peu mieux. Ok, merci. Donc, dans les, au niveau des couleurs, si on parle de la couleur de chaque endroit, néanmoins, la couleur inclut l'ensemble de toutes les autres couleurs. Seulement, on parle de quelle est la couleur principale. Si je parle du vert, le vert ne peut pas être une seule. Elle inclut l'ensemble des couleurs, mais il est, disons, celui qui est dominant. Et comme nous disons qu'à chaque endroit il y a 10 sphirotes, donc somme toute, Keter Chorma Bina Tiferet Malchut, tu dis rouge, vert, blanc, rouge, vert, noir. Même chose. Plutôt que dire Chorma Bina, Zeranpin et Malchut. Donc, dans tout endroit nous avons 10 sphirotes, nous avons les mêmes 4 couleurs. Okay. Pourquoi nous parle-t-il de cela? Car nous devons utiliser un certain nombre de discernements aussi pour comprendre ce qu'il est question dans le Zohar. Mais à nouveau, le Zohar parle des dix sphirotes qui sont la créature, et pour nous détacher comment il parle parfois des couleurs, et parfois il parle des mondes, parfois il parle des partsoufim, parfois des âmes, et ces différentes parties. Parfois, il parle de ces choses-là pour dire de même minéral, végétal, animal et humain. Il parle des âmes, des poulets, des cieux, de la terre. Il est question uniquement que des sphirotes. Mais parfois, il nous parle de la même image dans différents. Moins qu'on ait une image plus proche de notre monde, qu'on puisse y mettre une image plus, disons, pleine de couleurs, pleine de, comment dirais-je, plus discerner, admettons, améliorer, large, plus profonde, car somme toute, que voyons-nous aujourd'hui, maintenant, dans notre monde? Nous voyons des couleurs, des sons, tout un tas de corps, la relation entre en profondeur, largeur, hauteur. Mais somme toute, tout cela est perçu en nous de ce que nous ressentons sur nos cerfs, sur notre vue, notre différents sens, pas plus que cela. Cette image, nous l'étudierons par la suite, elle n'existe pas non plus. C'est comme une image dans la télévision, il y a des vecteurs de l'électricité qui nous créent une image. Même chose, ces mêmes vecteurs électriques nous créent une image en nous. Il semble être une image de ce monde large qui existe, etc. Tout cela n'est qu'imagination. Le Zohar de la même manière, plutôt que de nous dire 10 sphirotes et c'est tout, il n'y a rien plus que cela, il nous donne une image comme nous y sommes habitués dans ce monde-ci. Comme si nous parlons de tout phénomène. Il y a tout un tas de sons où des ondes sonores frappent mon tympan et je peux en tirer du plaisir et même pleurer. Il y a quelqu'un à côté qui veut vérifier, qui met un senseur sur ce qui produit ces ondes sonores et note sur un papier comment cela agit sur le tympan. Il ne parle d'aucun ressenti, il parle du phénomène qui existe. Donc le Zohar génère plutôt du phénomène en tant que tel, et lorsque nous lisons ce phénomène, alors nous en retirons une impression en fonction de nos propres kelim. Autrement dit, il nous met toujours dans une espèce de forme, et moi, en fonction de ma capacité, je ressens une certaine impression de cette même forme, du même monde, de ce même monde ou degré. Comme par exemple, je rentre dans une pièce dans laquelle il y a un théâtre, du théâtre ou de la musique. Donc je suis impressionné par ces mêmes endroits. C'est ce qu'il nous explique. Voyons un peu plus. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas encore arrivés. Bien. Graphe 8. Et en dehors de cela, dans ces quatre couleurs, il y a une question très importante, car les lumières supérieures sont appelées livres, comme il est écrit dans le livre Yetzira, qui créa le monde dans trois livres. Sefer, Sofer, Sipur. Et le dévoilement de la sagesse dans cinq mondes sont le blanc dans le... Ne pas le blanc qui est dans le livre, mais les couleurs des lettres dans la, qui sont les combinaisons de la sagesse de celui qui la lit. Dans un livre, il y a trois formes de d'encre. Autrement dit, il y a un écran ou du papier, peu importe comment l'appeler, sur lequel on écrit. Autrement dit, j'ai un cli, où ce cli reçoit une forme d'impression des trois mondes de Bria, Yetzira et Assia. Et alors, que je donne à mon impression des couleurs rouge, vert, noir. Et le blanc, c'est l'arrière de ce que l'on lit. Et de la même manière, le monde d'un silos, qui est le secret de la sagesse, Korma, qui est entièrement divinité, et l'aspect du blanc qui est dans le livre. Autrement dit, on ne le perçoit pas. Comme le blanc, on ne peut pas percevoir qu'on soit dans le blanc, mais uniquement en contraste entre le blanc par rapport à une autre couleur. Donc, tout dévoilement qui est dans le monde, dans le livre des cieux, et dans la sphère de Bina, et dans Malchut, qui sont les trois mondes de Bina, qui sont le même aspect d'encre qui est dans le livre des cieux. Et donc c'est toute cette combinaison des différentes encres, grâce à cela se dévoile la lumière divine en ceux qui la reçoivent. Autrement dit, nous recevons la lumière de ces mêmes couleurs qui se révèlent en nous. Comment elles se révèlent en nous? En fonction des couleurs, en fonction de nos corrections. Si en moi la correction est plus basse, je le verrai comme noir, un peu plus vert, un peu plus rouge. Et, si je, et tout cela est sur le un arrière-plan blanc. Et donc cette image colorée que je vois mes propres corrections dans tous leurs degrés, mais uniquement de cette façon je peux voir la réalité. Autrement dit, le créateur, je peux le voir uniquement à la condition que d'une manière ou d'une autre je suis corrompu, corrigé, etc. Et si je serai entièrement corrigé, je ne le verrai pas. Je n'aurai pas de couleur, je serai entièrement blanc. Ce blanc inclut toutes les couleurs, comme dans l'arc-en-ciel, quand il dit qu'il est dans la lumière blanche, se divise en quatre en sept couleurs qui sont Zéhapin et Malchot, car la lumière vient de Keter Chokhma Bina. Keter Chokhma Bina vient de la lumière, et par la suite, on a sept sphirotes qui sont six dans Zéhapin et sept dans Malchot, et une dans Malchot. Et donc cela fait cette couleur. Et ainsi on voit ce que l'on atteint à travers les couleurs. Et donc, il faut comprendre également, dans le même temps, que comme le blanc qui est dans le livre, qui est l'essentiel du livre, que les couleurs ne font que permettre de voir le blanc qui est dans le livre, et sans le blanc, il n'y aurait pas de réalité pour les lettres, et tout dévoilement de la sagesse qui s'y trouve, le monde de l'Atzilut, qui est la sphère Chokhma, et l'essentiel de la dévoilement de la Chokhma, se dévoilant non pas dans l'Atzilut, mais à travers les mondes de Béa, et c'est là signifie que tu les as tous faits dans la Chokhma, dans la sagesse. On ne peut pas dévoiler la chose en elle-même, mais à travers son expression, l'expression de sa, de sa, dans la matière, dans Bria et Tirassia. Dans le monde de Tzilut, on ne peut pas, car c'est là où se trouve la lumière sans changement, la lumière en elle-même. Et nous sommes ceux qui reçoivent, nous sommes les créatures. Par conséquent, on ne peut pas la ressentir, mais uniquement la façon dont nous sommes impressionnés par elle. Je ne peux pas parler de ces couleurs. Je dis toujours comment je suis impressionné par cela. Parfois, je suis impressionné et je pleure. Parfois, je ne suis pas dans cette situation et ça me contente de m'empêcher. Ça a du bruit dans mes oreilles. Donc, on parle tout. Tout est uniquement fonction de celui qui reçoit, de celui qui est impressionné. Deux secondes, vous levez la main, recevez le microphone et vous pouvez poser ainsi une question. Les gens nous regardent sur Internet. Ils veulent entendre votre question. Je suis obligé de... Donc, question ? Ma question est, dans le monde matériel, nous recevons l'ensemble des ressentis, des couleurs à travers nos cinq sens. Et quand on étudie la Kabbalah, nous développons le sixième sens pour sentir ce que les kabbalistes nous parlent. Tout un tas de sentiments, d'autres sentiments. Est-ce que ces nouveaux sentiments sont des choses qu'aujourd'hui je ne connais absolument pas? Non, vous ne les connaissez pas. Et également, ce qu'aujourd'hui vous connaissez, vous ne savez pas comment vous le percevez. Vous ne le connaissez pas. Je vois le monde, je ressens le monde qui m'entoure. Je le ressens dans mes sens. Si j'aurais les yeux de qui pouvaient voir les ondes radio, les rayons X, j'aurais pu voir à travers les murs. Si j'avais pu voir des oreilles comme des paraboles, j'aurais pu entendre d'autres ondes, j'aurais pu entendre ce qu'on dit à des milliers de kilomètres de moi, et à la radio, j'aurais pu percevoir les ondes radio à travers mes oreilles, etc. Et si j'avais eu des sens, pareil pour tous les autres sens, pour l'odeur, le sens de l'odorat, le goût, le toucher, j'aurais perçu un monde totalement différent. C'est en fonction de ce que nous comprenons, que ce que j'aurais pu comprendre, l'image aurait été tellement différente de ce que je perçois aujourd'hui. Autrement dit, ma perception, notre perception est très limitée. Très limitée. Elle est uniquement dans les limites de ce que nous percevons. Ce que l'on perçoit, ce que l'on goûte, tout cela est limité. Et somme toute, l'ensemble de ces cinq sens nous amène à un ressenti qui est appelé ce monde-ci. C'est ce monde. Si j'avais détaché l'ensemble de mes sens, alors je serais resté. Où je serais? Qu'est-ce que je ressentirais? Je ne ressentirais rien? Donc, tout d'abord, la Kabbalah nous explique comment nous existons, comment nous percevons la réalité, qu'est-ce qui s'appelle notre vie, où je me trouve, quel est le monde dans lequel je me trouve. Donc, tout d'abord, comprendre que ce monde est une copie de nos sens. Et non pas qu'il soit ainsi par lui-même, car s'il avait eu d'autres sens, le monde aurait été différent. Est-ce que je peux rajouter à mes sens d'autres sens supplémentaires, comme dit le sixième sens, et percevoir tout le reste, la mesure qui s'y trouve, compléter cette lumière? On dit oui. Et pour cela, la Kabbalah, la sagesse de la perception, de la réception, est véritablement construite pour nous grâce à elle. Nous pouvons percevoir l'ensemble du monde, l'ensemble de la réalité, cette réalité en dehors de notre monde limité et plus large. Nous la percevons par degrés. Le monde de Asiya, de Yitzira, de Bria, d'Atzilut, le monde d'Adam Kadmon, le monde de Ein Sof. Le monde de Ein Sof, c'est le monde qui n'a pas de limité. C'est sûr, on n'a pas de limitation dans ce que tu perçois. On perçoit précisément ce qu'il y a. C'est l'ensemble de la sagesse de la Kabbalah, pas plus que cela. Mais en même temps, avec cette perception, dans ce que nous élargissons le ressenti de notre monde, nous, par nous-mêmes, nous changeons, car on ne peut pas percevoir si on ne change pas. Tu dois élargir ta perception, tes sens. Donc, en élargissant nos sens, nous pouvons percevoir et nous comprendre de façon différente. Nous traversons de tels changements que l'on ne ressent plus notre vie traverser ce monde-ci, mais nous sortons vers l'éternité large, la nature. Je ne perçois plus ma vie à travers mes 500 dans ce monde-ci. Je perçois ma vie à travers mon sixième sens. Sixième sens, c'est tout simplement tout le reste, c'est plus le sixième sens. Je commence à me ressentir de façon éternelle et parfaite, et à l'opposé. Notre vie, je la ressens comme étant un fondement d'où je peux me développer. Et par conséquent, il est écrit, l'homme dans sa vie doit ouvrir son sixième sens, développer son sixième sens et se laisser et vivre dans ce monde-ci qu'il a dévoilé. S'il ne l'a pas dévoilé, alors il revient, il meurt et revient pour le dévoiler à nouveau. Et celui qui l'a dévoilé, il n'a plus besoin de ce qu'on appelle la mort, car il vit déjà dans un espace plus large que ce monde-ci. Où sommes-nous? Je perds en permanence le fil du texte. Paragraphe 9, ok. Et ce que l'on a vu dans la deuxième limitation, que le Zohar ne parle pas du monde de l'Atzilut tel qu'il est, car il est blanc, on ne peut rien y percevoir. Mais selon les trois lumières de les trois mondes de Béa, qui sont l'ensemble des lettres et leurs combinaisons qui sont dans le livre. Autrement dit, on ne perçoit pas le blanc, mais du fait que le blanc se divise en rouge, vert et noir, dans la mesure où nous nous corrigeons pour être comme ce vert et comme ce noir. Et l'ensemble de ces corrections dans tous ces mondes, nous les recevons. Autrement dit, je m'élève dans le monde de Asiya, du monde de Yitzira, dans le monde de Bria. Donc à travers tous ces mondes, j'arrive au monde de Atzilut. Je perçois le blanc qui est dans Atzilut, comme dans la lumière blanche, à travers ce prisme. Et se divise en cette lumière. Si je rassemble ces sept lumières ensemble, j'arrive au monde de blanc. La lumière blanche. Ah, si on voit la lumière blanche, si elle traverse, par exemple, la pluie, l'arc-en-ciel que l'on voit, et cela, cette même lumière blanche se divise en blanche. Par conséquent, on ne peut pas voir le blanc immédiatement, mais uniquement à travers ces couleurs. Comment dire, on fait toutes les corrections dans le monde de Asiya. Et alors on arrive à la fin de la correction, comme étant la lumière blanche dans le monde de Atzilut. Donc il nous dit, nous avons une autre limitation, soit le monde de Bia reçoit la lumière de Atzilut dans là où il se trouve, et donc dans ce cas-là il recevra bien moins de lumière qu'il traverse le monde de Parsak qui est ce monde de Atzilut, et elle est juste une illumination depuis les Kelim de Atzilut. Autrement dit, il explique, entre Atzilut et les mondes de Bia, il y a une barrière qui s'appelle Parsa. C'est une espèce de bordure. Que la lumière qui traverse du monde de Atzilut jusqu'au monde de Parsa, du monde de Bia, à travers le Parsa dans le monde de Bia, se diminue très fortement. Si on a une lumière très intense, alors quand elle traverse cette frontière entre Atzilut et les mondes de Bia, elle reste véritablement, il reste un millième. Elle est une partie extrêmement petite à travers cette lumière, à travers cette forme, cette frontière. Donc, soit les âmes se trouvent ici, comme on l'a dessiné, donc sur ce cli, dans le monde de Asiya, Yetzira ou Bria, dans les mondes de Bia, dans quelque part, dans un endroit. Et alors, ces âmes reçoivent un tantinet d'illumination qui leur arrive du monde de Hatzilut, ou en élevant le monde de Bia au-dessus du Parsa, dans les différents éléments du monde de Hatzilut. Et si on dessine ça de façon différente, comment peut-on recevoir? Ce sont deux façons de réception de la lumière que nous avons. En somme toute, le monde d'Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut, ou si je me trouve dans ces degrés des mondes. Il y a ici 10 sphirotes dans chaque monde qu'on peut diviser encore en tout un tas d'autres parties, peu importe. Donc soit l'âme se trouve dans un degré de ce monde-ci et bouge dans ces différents mondes, et en fonction de la lumière qui descend, en fonction de là où elle se trouve, ainsi elle perçoit la lumière, plus ou moins, ou plus ou moins. C'est clair? Donc c'est une lumière très petite qui, en descendant de façon très faible, traverse cette lumière qui s'appelle Parsa. Ou que les mondes de Bria et Tsirassia peuvent s'élever dans le monde de Hatzilut avec l'âme. Toute cette structure s'élève dans le monde de Bria qui s'élève dans le monde de Hatzilut. Le monde de Yetzira qui s'élève dans Hatzilut et Asiya qui s'élève dans Hatzilut. Ainsi il s'élève. Il y a trois élévations. Dessinons cela de façon différente. Ou on a donc Asiya, Yetzira, Bria et Hatzilut, qui est une situation constante, qui est donc appelée par ici on a par ça, et on a une situation où l'ensemble des mondes s'élève. Donc Asiya s'élève, Bria et Yetzira et également Hatzilut. Donc l'ensemble des mondes s'élève, le monde de Bria s'élève dans le monde, dans le lieu de Hatzilut, puis après il y a une élévation encore supérieure où Bria et ici Yetzira et ici Asiya reste ici, et on a une élévation supplémentaire où Asiya et Yetzira, Bria s'élèvent dans Hatzilut. Autrement dit, il y a trois élévations. Ce n'est pas clair? Je n'ai pas dessiné correctement. Ok. Non, elle dit que ce n'est pas clair. Peut-être qu'elle veut me mettre de mauvaise humeur. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux savoir? Donc je recommence. Donc, il se peut que tous ces mondes soit s'élève ainsi, c'est-à-dire qu'il y a une première chose, puis ensuite il peut s'élever ainsi, ou alors il s'élève ainsi. C'est la situation ici constante, c'est la première élévation, où seul le monde de Bria passe le Parsa. Encore supplémentaire, deuxième élévation où le monde de Yetzira passe ce parsa, et la troisième alia, la troisième élévation, ou le monde de Asiya passe ce même parsa. C'est tout. Donc nous avons trois élévations. Dans la troisième élévation, l'ensemble des mondes, ce sont les zéros. Et alors, même l'âme qui se trouve ici, tout en bas, dans la spiritualité, dans le degré le plus bas dans la spiritualité, elle s'élève également dans le degré de la ciel haute. Autrement dit, il y a deux possibilités de recevoir la lumière ou à travers on saoule par ça de façon fortement diminuée, et alors en fonction de l'endroit où se trouvent les âmes, ainsi elles reçoivent la lumière, et reçoivent la lumière soit comme étant rouge dans le monde de Bria, soit comme étant verte dans le monde de Yetzira, soit noire dans le monde de Asiya, ou que l'ensemble de ces mondes s'élève au-dessus du parsa. Et alors, l'âme, même si elle est petite, elle n'est pas encore corrigée, elle s'élève avec les mondes et reçoit au-dessus du parsa la lumière blanche. Pourquoi les choses ont lieu ainsi? Comment cela a-t-il lieu? Comment mériter que les choses aient lieu ainsi? Qu'est-ce qui m'élève ainsi? Il y a. Ça, on va l'étudier. Mais il y a une telle possibilité. Oui. Ok. Ma question est, les différentes couleurs de la lumière, c'est l'entrée de Narantraï, le verre de Narantraï dans lequel est c'est le positif et le négatif, Narantraï c'est les lumières, ça on va l'étudier par la suite. D'autres questions? Pourquoi? Pourquoi doit-il y avoir un parsa? Pourquoi la lumière ne peut pas descendre? On étudiera pourquoi. Mais à nouveau, nous étudierons le sujet des otiot, des lettres. Le atilou détermine tout ce qu'il y a. Tout ce que nous avons dans l'ensemble de la réalité est déterminé par le monde de atilou. Et le monde de Bria, Yetzira et Asiya sont les mondes temporels. Tant que l'âme ne se corrige pas, elle se trouve dans ces mondes-ci, Bria, Yetzira et Asiya. Nous avons déjà vu que Kumar Tikkun est dans le monde de Hatzilut. C'est l'endroit où nous devons arriver. Et par conséquent, le Parsa ici, pourquoi doit-il exister afin que nous puissions supporter la lumière de l'infini qui se trouve dans le monde de Hatzilut et tout doucement nous y mettre en adéquation par rapport à elle. Ainsi, dans le monde de Hatzilut, c'est la lumière blanche. Mais ici, qu'est-ce que c'est la lumière blanche? L'influence très forte de la lumière du Créateur. Alors que ici, nous sommes protégés, entre guillemets, nous pouvons exister même dans notre corruption. Il y a ici des degrés, même les plus petits, qui n'est pas capable et encore égoïste et ne peut pas encore être comme la lumière ici. Je peux néanmoins exister d'une manière ou d'une autre, être en contact avec lui de façon et qui est bien que corrompu lié à la lumière. C'est ce qui nous permet d'exister dans les mondes de Bia en dessous le Parsa. Le Parsa est pour nous qui a diminué la lumière et nous donne la possibilité d'être dans tout un tas de formes corrompues et d'exister néanmoins et tout doucement, de nous mettre en adéquation. Ici il y a une klipa, ici la gdusha, c'est écorce et impureté, et de l'autre côté la sainteté, et je peux être entre les deux et me corriger un tantinet, et même peut-être me corrompre, puis après me corriger à nouveau.
C'est
c'est leur environnement tel qui, que je peux étudier, comment être de plus en plus corrigé, moins, plus ou ainsi, qu'est-ce qui est bien ou non, apprendre de mes erreurs. Alors qu'au-dessus du persan, tout est déterminé d'avance. Donc tant que je ne me suis pas corrigé, je ne traverse pas le persan. Ici, il y a la question, donc, qu'est-ce que c'est que s'élever dans les mondes? Il y a une chose qui fait que bien que je sois ici corrompu quelque part, mais vient la lumière et me fait faire un voyage comme ça. Oui, elle brille sur moi, et je vois, oh,
quelle lumière, quelle chose gigantesque.
Cette vue m'a diminué mes éléments mauvais, et dans cette lumière, je suis entre guillemets meilleur, mais non pas par moi-même, mais du fait qu'elle brille sur moi. Et alors, cela peut m'élever dans le monde de Hatzilut. Faire une espèce de voyage, puis après on me redescend, puis on me redonne mes attributs. Pourquoi? Maintenant je sais ce que c'est d'être corrigé, ça vaut la peine de le faire. Et ainsi, on agit sur les âmes, on leur enseigne aussi comment arriver à la correction. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il des gens qui... je vois déjà qu'il y a... Non, c'est... Dites des gens qui sont... qui n'ont encore pas posé de questions. Vous avez dit que l'âme qui n'est pas encore arrivée à la lumière blanche, qui est le degré de Hatzilut, elle revient jusqu'à temps qu'elle ne fait pas sa correction, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez expliqué? Oui, ok, merci. Non, Madame Pinchas, il y avait la première image que vous avez dessinée avec les mondes, les couleurs. Ça me semble qu'il y ait minéral, végétal, animal et parlant. Et vous êtes tellement intelligente, je il manque ici une minéral, mais quand on arrive le parlant, est-ce que disparaissent toutes les couleurs parce qu'on est dans le blanc? Rien ne disparaît. Ah, bon, c'est bien que vous ayez posé la question. Maintenant, je comprends qu'il y a un intérêt dans les... est-ce que vous posiez des questions? Donc, rien ne disparaît. Également les couleurs. J'ai parlé ça de la lumière blanche, je pensais que vous comprendriez ici les choses. Il y a ici la lumière noire, et verte et rouge, et ici blanche. Comment peut-on arriver à la lumière blanche? Il y a une telle lumière blanche ou non? Du fait que en moi, je ressens toutes les impressions du vert, du noir, du rouge, et je me suis corrigé entièrement dans toutes les lumières, j'arrive de leur mélange à un concept qui est appelé, un terme qui est appelé blanc. Non pas qu'elle disparaisse, tout cela reste en moi. Même chose dans tout pas que j'ai traversé dans l'élévation, dans les trois mondes de Mbiya, quand je me lève dans le monde de Hatzila, rien ne disparaît. À l'opposé, l'ensemble de tout ce qui est ressenti et ce qui m'amène à la situation où on dit que tout est abstrait, infini, l'ensemble de lumière blanche, etc. Cette lumière blanche est justement ressentie en moi comme étant blanche, après tout ce que j'ai traversé et tous ces discernements doivent être comme un ingrédient de cette lumière blanche. Ok? Y a-t-il d'autres questions? Non. Peut-être qu'on voulait étudier autre chose. C'est intéressant? Ok. Peut-être que c'est trop. Bon, ok. Ce qui est bien dans cette introduction, c'est qu'elle donne très rapidement à l'homme la bonne perception correcte pour qu'il voit correctement percevoir et pénétrer la spiritualité. C'est une introduction qui est très très intense. Comment, à travers la perception de notre monde, avec toutes nos illusions que nous avons ici, nous pouvons progresser vers la spiritualité. Véritablement, de cette image vers l'intérieur, dans ce qui a lieu en elle, dans cette réalité. Bien, merci, et à vendredi prochain.